Bonjour à tous, je suis Caroline Bindel, ravie de vous accueillir dans Cité Radieuse. Alors Cité Radieuse, c'est quoi ? Une rencontre, une conversation avec des personnes venant d'horizons très divers, mais qui ont en commun de faire rayonner une ville, Marseille. Elles y vivent, y ont vécu, ou tout simplement l'aiment pour ce qu'elle a à offrir. Marseille est lumineuse, bouillonnante, arlequinée, agitée. On l'aime autant qu'on la déteste, parfois. Parfois seulement. Aujourd'hui, je reçois Dominique Tapie. Et celles et ceux qui me suivent depuis un petit moment savent ce que cela signifie. J'ai rêvé avoir Bernard Tapie à mon micro. J'ai tout fait pour. Et mon émotion, en fin d'épisode, à la lecture des mots écrits pour lui, trahit mon admiration pour le personnage et ma joie d'avoir en face de moi celle qui le connaissait le mieux. Sa vérité, Dominique Tapie l'a livrée dans un livre paru aux éditions de l'Observatoire, Bernard, la fureur de vivre. Et à l'occasion du deuxième anniversaire de sa mort, j'ai eu envie de lui demander, comme une supplique, parlez-moi encore de lui. Dominique Tapie, bonjour.
Bonjour.
Je suis extrêmement heureuse de vous avoir au micro de Cité Radieuse, ce podcast dont la ligne directrice est Marseille. Alors évidemment, le prétexte est la sortie de votre livre, Bernard, la fureur de vivre, aux éditions de l'Observatoire, mais aussi votre attachement à cette ville que votre mari a choisie pour l'éternité. Dans mon introduction de ce podcast, je dis entre autres que Marseille est lumineuse, bouillonnante, agitée, qu'on l'aime autant qu'on la déteste, et je me dis que ces deux-là se sont bien trouvés. Ce podcast sera en ligne le 3 octobre, cela fera 2 ans que Bernard Tapie nous a quittés. Le moment de vous demander, Dominique Tapie, s'il vous plaît, parlez-moi encore de lui. Et parlez-moi encore de lui, c'est évidemment vous demander de me parler de vous. Comment allez-vous ?
Je vais bien, je suis très occupée parce que avec cette série qui vient de sortir, j'ai beaucoup de médias qui viennent vers moi, qui veulent mon impression, mes avis. Et donc je suis forcée d'y répondre et en y répondant, ça me replonge dans le tourbillon qu'a été ma vie avec Bernard. Et c'est un moyen aussi de remettre les choses en place. J'ai écrit ce livre qui est un livre de thérapie, de mémoire et une manière aussi de poser ma voix sur la sienne et de réhabiliter mon mari qui a été trop longtemps décrié. J'ai une amie qui, il y a 2 jours, me dit « Mais en fait, tu es en train de devenir l'attaché de presse de ton mari. » Ben oui, qui aurait dit ça ? Moi qui n'aimais pas prendre la parole. Et maintenant, je veux vraiment que le vrai Bernard Tapie apparaisse. Et il apparaît dans ce que j'ai donné. Voilà, j'ai vraiment écrit avec Catherine Siguret qui m'a énormément épaulée, comprise. Et j'ai livré beaucoup de choses personnelles, de situations. Je n'aurais pas pensé que j'étais capable de cette impudeur, mais voilà, c'est fait et j'assume.
Alors c'est votre vérité et c'est ça qu'on aime, et on va évacuer la question de la série, comme ça ce sera fait puisque vous en avez parlé. Vous disiez, vous devenez l'attachée de presse de votre mari. Effectivement, vous racontez avoir été une femme plutôt discrète, et dans la série, pas du tout. Le personnage de Joséphine Japy est au premier plan, plonge dans les dossiers d'Adidas, de rachat, etc. On la sent très impliquée, ce n'était pas votre cas ?
Absolument pas. Et je veux absolument rétablir les faits réels. Moi, je n'ai jamais mis un œil dans les dossiers de mon mari. Et vu la situation dans laquelle je me trouve avec ces millions de dettes, qui ne sont que des intérêts, je le rappelle, puisque la dette initiale a été remboursée. Je veux vraiment que les gens se fassent une idée véritable, c'est-à-dire que moi j'étais une femme au foyer, ça me convenait parfaitement, Bernard était aux manettes, et j'ai pas envie qu'il y ait d'amalgame entre mon rôle, qui a toujours été au second plan, et le rôle qu'on me porte à l'écran.
Voilà, donc on rappelle que c'est évidemment une fiction, qu'il y a une part de vérité et
voilà,
des scènes inventées.
Bien sûr, il y a une, il y a des vérités, mais qui sont après brodées. C'est-à-dire que sur des faits réels, après, ils ont mis leur histoire. Mais je trouve ça dommage parce que, à la limite, la réalité était bien plus intéressante qu'une fiction.
Et dépasser la fiction, même, oui. On peut le dire. Oui. Et en fait, pour tout vous dire, je l'ai regardé et les images les plus émouvantes, évidemment, sont celles de fin, les vraies
évidemment,
images.
Évidemment, moi aussi.
Qui m'ont fait pleurer, bien sûr. Est-ce que vous êtes heureuse, Dominique Tapie, de l'accueil qui a été réservé à votre livre ?
Oui, je suis très, très, très contente. J'ai fait quelques salons et ça m'a permis d'aller au-devant de tous ces anonymes qui ont soutenu Bernard quand il était en prison, quand il y avait des mauvaises passes, quand il a été malade. On recevait des montagnes de lettres, de témoignages de sympathie, auxquels je répondais d'ailleurs. Et bien, toutes ces personnes viennent vers moi et elles ont... Comment vous dire ? Ça me nourrit. Toutes ces marques de sympathie, c'est très touchant. Voilà, c'est très touchant et je me dis que quelque part, Bernard, son passage ici sur Terre n'a pas servi à rien parce qu'il a donné de l'espoir à beaucoup de personnes. Et ça me fait un réel plaisir de les rencontrer.
Alors dans votre livre, on en apprend davantage sur vous, votre passion pour la danse notamment, pour les animaux. Votre enfance ballottée entre trois foyers et votre amour de la famille que vous aviez en commun avec Bernard Tapie et que vous n'imaginiez que clanique finalement.
Oui, tous les deux, on était sur la même longueur d'onde. Oui, on était tous vent debout contre les agressions extérieures. Toute cette famille a fait cohésion et c'est ce qui l'a beaucoup aidé à tenir dans les moments difficiles.
Alors, 52 ans de vie commune, vous avez épousé un homme et un destin. À quel moment avez-vous pris conscience que son destin, et donc le vôtre, avait basculé ? Parce que la réussite n'a pas été immédiate.
Non, pas du tout. C'est pour ça que, pour revenir à la série, c'est assez réducteur. Hein, de passage, je vends des télés et après je rachète je ne sais plus quoi. Enfin bon.
Les premières entreprises qui rachètent pour un franc.
On n'arrive pas à s'y retrouver. J'ai d'ailleurs... toutes ces anciennes collaboratrices qui m'envoient des mots, mais c'est n'importe quoi. Elles s'insurgent. Bon, restons-en là. Disons que c'est, voilà, comme vous l'avez dit, une fiction.
Il vaut mieux se plonger dans ce livre. Ah, au moins,
bien
on
sûr,
sait que
bien sûr.
Vous êtes celle qui l'avait le mieux connu.
On en était.
Donc, à quel moment avez-vous pris conscience que son destin et le vôtre avaient basculé ?
Malheureusement, quand les affaires nous ont rattrapés. Voilà. C'est à ce moment-là que j'ai compris qu'on était indissociables l'un de l'autre, car j'avais une part dans ces sociétés, ce que j'ignorais. Et donc je me suis retrouvée emportée dans le tourbillon des affaires, malgré moi.
On y reviendra un peu plus tard. Au début de votre relation, vous sentez dès le début qu'il rêve de réussite, de gloire peut-être même ?
Non, pas de gloire, mais en tout cas, il voulait sortir de sa condition première, puisqu'il venait d'un milieu très modeste. Moi, je ne l'ai connu que quand il était déjà entrepreneur, qu'il avait cette petite société, on va dire un petit Darty, voilà, en devenir. Donc, je ne l'ai connu qu'à cette époque. Mais c'est vrai qu'il était, c'était un homme de défis, qui aimait l'adrénaline, qui aimait le contact des gens, qui ne reculait devant rien. Au contraire, s'il y avait des difficultés, ça n'en était que plus excitant pour lui, exactement. Je voyais bien que c'était un touche-à-tout. Il avait une intelligence exceptionnelle, fulgurante. Il rentrait dans une boîte, il avait tout de suite trouvé ce qu'il fallait remettre en ordre. Et cette approche, c'était en lui, je pense, c'était en lui. Peut-être aussi, il a fait beaucoup de sport quand il était jeune. Et c'était un challenge, voilà, toujours des challenges à relever.
Alors vous le disiez, c'était important que ce livre existe. Qu'est-ce qui a été à l'origine de ce projet ? Qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire ?
Alors, ce n'est pas moi qui ai eu envie d'écrire, parce que comme je vous le disais, je suis quelqu'un de discret. Et c'est Jean-Louis Borloo qui m'a suggéré, c'est lui qui m'a logé, puisque je me suis retrouvée quasiment à la rue. Il m'a épaulée et il m'a suggéré d'écrire mon histoire d'amour avec Bernard et de donner ma vérité. Sur le moment, c'est vrai que ça ne m'a pas énormément emballée, parce que je savais que je devais me dévoiler, ce qui ne me plaisait pas. Mais comme je vous le disais, avec Catherine Figuret, je me suis vraiment sentie en confiance. J'ai fait un déroulé de ma vie, une introspection d'ailleurs. Ça m'a permis même de mettre des points sur des zones d'ombre que je n'avais même pas cherché à éclairer. Et voilà, ça s'est fait tout naturellement, en douceur. Quand j'ai relu avec elle, que le livre était en correction, j'étais même un peu gênée moi-même d'avoir lâché tellement de choses.
Ah oui.
Oui, oui, c'était... je suis quelqu'un de pudique. Je me suis étonnée, mais après, c'est vrai que le fait de me replonger dans tout ça, bah, il fallait que j'aille au bout du projet. Et maintenant, je dois dire, je continue, puisque j'ai des retours. J'ai des personnes qui me disent, d'abord mes amis proches qui m'ont connue très jeune, m'ont dit « Écoute, ce livre c'est vraiment toi parce qu'on a l'impression de t'entendre parler. » Donc déjà, il est réussi et il est vrai. Et des inconnus, comme je vous le disais, lors de signature, viennent et me disent mais voilà, c'est tout à fait ce qu'on imaginait. » Donc je suis contente d'avoir rétabli certains faits.
Oui, et puis on en apprend beaucoup, vraiment, même quand on pensait en savoir déjà beaucoup.
Oui.
C'est à la fois bouleversant et lucide, c'est une lecture passionnante. À un moment, on va suivre la chronologie, à un moment vous dites « il lui fallait des applaudissements, c'était plus fort que lui ». Ainsi sont les artistes, au contraire des personnages balzaciens ou de l'avare de Molière qui dorment sur leurs cassettes en cachant leur jouissance, y compris à leurs proches. Alors on le reconnaît bien là. Mais c'est sur le mot « artiste » que je voudrais revenir. Est-ce que c'est ce qu'il était avant tout ?
Oui, il avait un côté artistique.
La vie était une scène ?
En tout cas, il savait se mettre en scène, ça c'est sûr. Il avait déjà compris, je pense, sans même l'analyser, mais que c'était important de communiquer. C'est pour ça qu'il a repris beaucoup de sociétés qui avaient un nom, un patrimoine français, parce qu'aussi il était extrêmement patriote.
Ce qui vous a causé des ennuis, on y reviendra aussi.
Oui, avec le pavillon français de Phocéa. Oui, beaucoup d'ennuis. On aurait dû mettre un pavillon panaméen, comme la plupart de tous les gros chefs d'entreprise.
Alors dans ce livre, on comprend qu'il avait besoin de vous à ses côtés, de toute évidence que vous étiez un pilier l'un pour l'autre. Mais est-ce que parfois ou souvent, vous avez eu l'impression que vous avez eu le sentiment de n'avoir pas de prise sur lui ? Je pense évidemment à la politique.
C'est vrai. En fait, il voulait notre avis, mais il n'en tenait pas compte, malheureusement.
Pas toujours.
Voilà. Bon, par contre, il y a certains sujets où je restais inflexible. Malheureusement, je ne l'ai pas été sur celui-là, parce que je sentais que c'était au fond de lui une apothéose, le nirvana, pour lui être au service de la France. C'était jamais, dans son enfance, il aurait pu s'imaginer un jour finir ministre. Or, pour lui, c'était la fonction suprême.
Il a même rêvé, envisagé de devenir président de la République.
Non, ça c'est... non.
On lui a laissé
franchement,
croire.
Franchement, non, moi je ne crois pas. Moi j'y crois pas d'ailleurs. Mais c'est surtout les médias qui ont monté tout ça en épingle. Et ça fait partie aussi de ce qui lui a porté préjudice.
Bien sûr. En tout cas, nous à Marseille, dans une moindre mesure, on aurait rêvé l'avoir en tant que maire.
Ah voilà, ça à la limite, je vous l'accorde. Ça, je pense qu'il aurait adoré. Dieu sait qu'il aime Marseille, qu'il aimait Marseille.
Alors justement, nous allons y revenir. Ça évoque quoi spontanément pour vous, cette ville ?
Alors, je vais vous dire, j'ai retrouvé quelques phrases dans son livre. « Je suis née ailleurs, Marseille, la magnifique, la tchatcheuse, la passionnée, la charmeuse, qui ne donne son cœur qu'à ceux qui l'aiment. Cette ville-là était la mienne. Voilà. Et elle est restée puisque, voilà,
comme on disait,
y est pour l'éternité.
Oui, oui, il y est pour l'éternité. Vous vous rendez une fois par mois sur sa tombe, à peu près ?
À peu près.
Vous y avez vécu avec votre fille Sophie durant une période difficile dont vous parlez dans le livre. On ne s'étend pas, on invite juste celles et ceux qui nous écoutent à acheter votre livre. Il est merveilleux, encore une fois, je ne le dirai jamais assez. Est-ce que vous avez imaginé venir y vivre à nouveau ?
Je ne sais pas, je suis indécise parce que je suis désolée, hein, mais je suis très parisienne.
Ne soyez pas désolée.
Parisienne, mais j'adore aussi Marseille. J'aime bien y aller. J'y séjourne très souvent puisque sa fille aînée, Nathalie, vit à La Ciotat, donc j'y vais très souvent. J'ai encore beaucoup de contacts. J'ai encore eu ce matin son ancien avocat, Henri Bollet. Je suis très proche des Bigouins. J'ai Jean-Pierre Bernès au téléphone. Donc j'ai encore beaucoup d'attaches là-bas. En fait, je vais vous dire, si j'étais riche, j'aurais un pied-à-terre à Marseille. Voilà. Et là, je serais ravie.
Et là, ce serait formidable.
Mais c'est vrai qu'à Paris, j'ai quand même un peu de famille qui me reste, toutes mes amies, mes cours de danse.
Bien sûr.
Là, c'est très important.
Alors ça a un petit peu évolué, hein, parce que vous dites que vous n'en aviez pas trouvé à l'époque. Vous y avez...
Mais c'est vrai.
Voilà, séjourné avec Sophie depuis, vous inquiétez pas. Ouais. Et de très bons cours de danse. Alors, en préparant cet entretien, j'ai visionné des interviews que vous avez données, dont une dans laquelle on vous voit émue aux larmes en entendant la ferveur des supporters marseillais le 26 mai 93.
Ça, je ne peux pas rester insensible parce que je pense que pour lui, c'était sa plus belle victoire.
Alors, on rappelle que ce jour-là, l'OM a remporté la Ligue des Champions, à jamais les premiers.
Ah oui, ça, je le dis, je le répète. Oui. Et tant pis pour le PSG, parce que je suis parisienne, mais j'aime pas le PSG.
Ah, ça
ah,
c'est
non.
Dit.
Et vous savez que j'ai eu un dilemme deux, trois fois, parce que l'OM rencontrait les Grecs. J'ai un grand-père grec.
Là, oui,
il y a une grande diaspora grecque aussi,
oui,
à Marseille.
Tout à fait, oui. Et vous étiez tiraillé ces soirs-là.
Et Bernard me disait, non mais ne me dis pas que tu vas être pour les Grecs. Je dis, non, je suis pour Marseille, mais bon. Il ne faudrait pas quand même les ridiculiser.
Non, mais vous avez aimé cette période. Vous racontez dans le livre,
ah,
vous avez...
Oui.
Alors, pour ce soir-là, cette occasion spéciale, vous aviez même acheté une belle robe bleue. Et puis, au Vélodrome, vous y êtes allé souvent. Vous vous êtes prise au jeu, finalement.
Ah, mais complètement. Complètement, parce qu'il y a une telle ferveur. C'est, pour moi, le stade, c'est le poumon de la ville. Comme le disait Bernard, il y a beaucoup de gens, beaucoup de personnes qui ont une vie pas très drôle. Et qui, à travers ce club, vivent, ils ont le cœur qui bat. Il n'y a pas de blanc, noir, beurre, machin. Ils sont tous fans de l'OM. Et ça, c'est extraordinaire. On ne peut pas rester insensible. Et beaucoup de Parisiens, que Bernard emmenait au match, restaient scotchés par cette ambiance. Moi, je pense qu'il y a à part le club de Naples, où il y a aussi une émulation comme ça entre les êtres, j'en connais pas d'autres.
Est-ce qu'il y a des joueurs qui vous ont plus marqué que d'autres ?
Oh, bah bien sûr.
Ah,
bien sûr, d'abord j'avais toujours des chouchous dans chaque équipe. Évidemment, le tout premier, c'était Jean-Pierre Papin. C'était extraordinaire, mais extraordinaire. Et puis c'est un gentil. Ensuite, j'avais quand Papin est parti chez les Italiens, je me suis focalisée sur Dimeco et je suis toujours en contact avec Eric.
C'était vos chouchous.
Oui, c'était mes chouchous, mais dans l'équipe cycliste aussi, j'avais un chouchou. C'était Jean-François Bernard.
Ah oui, que Bernard Tapie a rencontré au tout début de sa carrière, qu'il a repéré presque.
Oui,
parce qu'on n'en a pas parlé tout à l'heure, je fais comme si celles et ceux qui nous écoutaient connaissaient parfaitement la vie de Bernard Tapie, parce que j'ai l'impression que tout le monde connaît la vie de Bernard Tapie. Mais c'est vrai que j'aurais pu quand même rappeler qu'il a fait un peu tous les métiers. Il a commencé donc par vendre des télés, vous le disiez tout à l'heure, il a été entrepreneur, évidemment. Il a chanté, animé des émissions de télé, de radio. Il a été député, ministre, patron d'équipe sportive. Et on sait que le cyclisme est une aventure qui l'a particulièrement réjoui. Bien sûr, il a dirigé l'Olympique de Marseille, mais il parlait souvent du cyclisme.
Oui, il a, d'abord, il était, c'était un cycliste lui-même. Oui. Moi aussi, d'ailleurs, je suis venue à vélo.
C'est vrai?
Ah oui, ça fait 30 ans que je fais du vélo dans Paris. Ah. Ce n'était pas la mode, mais je continue. Et lui, donc, étant un très bon cycliste, a eu cette idée, oui, de, bah, encore un challenge. Bernard Hinault était blessé, il est allé le chercher en lui disant « chiche ». Et voilà, on connaît le résultat, plusieurs Tours de France gagnés.
Il était un peu en désamour à ce moment-là, Bernard Hinault, et ça lui a pas trop plu non plus. Mais à Bernard
Tapie.
On ne brûle pas les icônes.
Ah oui, Bernard détestait l'injustice. Et encore un, voilà, il avait été porté au nu, puis après on brûle les idoles qu'on a adorées. Et ça, il ne supportait pas.
Au stade Vélodrome, aujourd'hui, on peut y voir assez fréquemment votre fille, Sophie, votre petit-fils, Rodolphe, et son fils. L'OM est définitivement dans l'ADN des Tapie.
Oh là là, dans notre cœur, à jamais, évidemment. Et tous les ultras. Vous savez, quand il y a eu la commémoration de la Coupe d'Europe à la mairie, j'ai revu à cette occasion tous les anciens, tous nos anciens joueurs. Quel bonheur c'était de tous les revoir. Basile, évidemment, on n'en parle pas de Basile. Eh bien, tous ces ultras, ces winners, les virages, enfin, je ne peux pas vous dire, la vieille garde. Mais moi, ça m'émeut, parce qu'ils sont fantastiques. Sans eux, le club n'existe pas. Donc, il faut leur rendre un hommage vibrant.
Et Bernard Tapie avait dit que l'hommage, leur hommage, pendant son combat contre la maladie, c'était presque aussi fort que
qu'une séance de chimio. Exactement. Ouais. Exactement.
Lui ont fait passer de la force au boss, dont on espère qu'une statue viendra agrémenter l'esplanade qui se trouve devant le stade Vélodrome.
Ah oui,
c'est en cours.
Ça, oui, je sais. Mon fils a lancé ce site. Oui.
Donc il faut donner. Il faut aller sur la cagnotte et donner pour que ce projet aboutisse.
Oui, parce que je trouve que quand même, c'est quand même dommage qu'il y ait rien. Il n'y a rien. Vous vous rendez compte qu'il y a un centre d'entraînement au nom de Dreyfus, qui n'a fait que reprendre l'OM, et mon mari, il n'a rien.
Pour le moment.
Pour le
moment. Parce que c'est une injustice et qu'on ne laissera pas faire, évidemment. Alors tout à l'heure, vous reparliez des affaires. On va finir là-dessus, puisque la justice ne vous a pas laissé tranquille suite au décès de votre mari, ce qu'il croyait. Il pensait qu'une fois qu'il l'aurait eu, lui, ça s'arrêterait. On comprend une fois encore en vous lisant et en suivant cette actualité judiciaire que l'inhumanité n'a pas de limite. Vous lui en avez voulu, dites-vous, puis vous lui avez pardonné. Cette vie folle et romanesque, vous ne la troqueriez pour rien au monde si c'était à refaire?
Ah non, je pourrais pas. Non, je pourrais pas. D'abord, j'ai eu une vie hors norme, comme avec un homme hors norme. Non, non, non. Vous vous rendez compte la vie que j'ai eue? D'une intensité, j'ai été adorée, c'était passionnel. Il y avait aussi des grosses colères entre nous. Ben, une vie de couple. Et évidemment, je ne regrette rien, rien.
Et concernant les affaires, que peut-on espérer pour la suite?
Écoutez, vous voyez, j'étais encore ce matin avec la collaboratrice de mon liquidateur. J'espère que le dossier va se refermer quand tous les actifs restants seront vendus et qu'on m'oublie.
Ouais.
Mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Bon, j'ai ce livre qui me porte. On verra. Je ne peux pas trop me prononcer parce que je ne sais pas. Je n'ai pas d'avocat. Je suis livrée comme ça, un peu en pâture. L'État est inflexible. J'ai une dette inextinguible. Que faire? Et pourtant, le pauvre, il faisait ses comptes. Ce qui a été donné par l'arbitrage a été entièrement remboursé. Donc, ce qu'on me demande, ce sont des intérêts. Oui. Donc, il ne pouvait pas imaginer que pendant des années, les intérêts allaient courir.
Tout ce qu'on peut vous souhaiter, c'est qu'effectivement, il vous oublie. et que vous soyez heureuse en famille, toujours. Votre clan soudé, votre fille Sophie a annoncé une très jolie nouvelle il y a quelques semaines. Un petit enfant va arriver bientôt.
Alors ça, c'est... Oui. Ça, c'est... Voilà, c'est la vie. La vie qui continue. Ma Sophie, qui ressemble beaucoup à son père. Et elle attend un petit garçon qui naîtra en février. Donc elle m'a dit, t'as vu maman, ce sera un Verseau. Comme papa.
Ah là là. C'est vrai qu'elle lui ressemble beaucoup, physiquement aussi, mais elle a son tempérament. Et puis c'est une artiste. On
et
en parlait tout à l'heure.
C'est une artiste aussi. Ouais. Ouais. Écoutez, voilà, tout le monde suit le cours de sa vie. Parce que c'est vrai que mon mari était un peu... le patriarche, le chef de famille dans tous les sens du terme, et que parfois il aurait pu un peu les écraser. Mmh. Et là, ils sont tous obligés de prendre leur destin en main, et ils le font assez bien.
Est-ce que vous avez encore des signes de lui ?
Alors, non, j'en ai pas eu depuis un bon moment. J'étais au Pays Basque avec ma fille, le tout dernier. Mais j'ai eu un clin d'œil. J'ai eu un clin d'œil parce que quand Tristan Seguela m'a proposé de voir la série 48 heures avant qu'elle ne sorte, je me suis rendue chez Netflix et c'est sur la place Édouard VII, en face le théâtre. Je gare mon vélo, j'étais accompagnée de Laurent, et d'un seul coup, je vois en face de moi un restaurant qui n'est plus le même, mais qui s'appelait le Cintra. Et c'est le premier lieu, le premier restaurant où Bernard m'a invité à dîner en tête à tête. C'était quand même un petit clin d'œil. Oui,
joli.
C'est drôle.
Oui. Et pour le reste, maintenant, il repose en paix.
Je crois.
Alors, je souhaitais conclure avec ces mots écrits sur mon compte Instagram, car celles et ceux qui me suivent savent à quel point je rêvais de l'avoir à mon micro. Et je lui suis extrêmement reconnaissante d'avoir pris le temps par deux fois de m'écouter lui exposer ce projet de podcast au téléphone. Je ne lui proposais pas le 20h de TF1 et pour autant il m'a écouté vraiment et encouragé, et ça je ne l'oublierai jamais.
Mais c'était Bernard, ouais. Il était comme ça. Vous savez, il n'a jamais oublié d'où il venait. Et c'était quelqu'un qui aimait les gens. Et je crois que c'est ça que ressentent tous ces témoignages que j'ai. Ils ressentent ça. Il aimait les gens. Et chaque personne valait la peine d'être écoutée. Mmh. Et je suis sûre que... Vous savez, au fur et à mesure, je rencontre des tas de journalistes, de personnes qui l'ont côtoyé. Et j'apprends des choses que j'ignorais. Il se confie à moi. C'est très amusant. Voilà, vous me dites ça. Il y en a une autre qui m'a interviewée. Elle m'a dit, vous savez, quand il a su que ma mère a été atteinte d'un cancer, il m'a dit, donnez-moi son téléphone. Il l'a appelé pour lui remonter le moral. Voilà. Ça, c'était Bernard.
Et c'est ce qu'on retiendra de lui. Donc ce 60e épisode que je rêvais de faire avec lui n'a pas existé. Donc il n'y a pas d'épisode 60 de Cité Radieuse, car c'était lui ou rien. Et j'avais écrit ça, il n'y aura pas d'épisode 60 de Cité Radieuse. Pendant des mois, j'ai rêvé et j'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir pour que ce 60e épisode soit celui de Bernard Tapie. C'était lui ou personne. Parce qu'il aimait Marseille autant que les Marseillais l'aimaient, infiniment, passionnément. Parce qu'il a fait battre le cœur de cette ville plus que de raison, je rêvais de poursuivre avec lui une conversation commencée il y a fort longtemps, après une représentation de Vol au-dessus d'un nid de coucou à Marseille. Sur scène, il avait été merveilleux, et le dîner qui a suivi, avec lui et les frères Acariès, reste l'un des moments les plus dingues de notre vie à mon mari et moi. Il prenait toute la place, il occupait tout l'espace, nos yeux ne pouvaient se dérober et nous étions suspendus à ses lèvres. Il avait un magnétisme fou. Cet homme ne pouvait pas vouloir autre chose que tout. Je l'ai revu des années plus tard avec le même plaisir et l'année dernière, avant qu'il nous quitte, je l'ai eu par deux fois au téléphone, espérant le convaincre d'enregistrer un épisode. Toujours bienveillant, enthousiaste. Mais si je vous dis oui, faudra que je dise oui aux autres. Sa voix avait changé, la maladie galopait, mais toujours ce panache. Deuxième appel. Bonjour, c'est encore moi, la relou qui ne lâche pas l'affaire. Ce à quoi il avait répondu. C'est bien ça, faut jamais lâcher l'affaire. Et cette fois-là, je l'ai senti convaincu, mais le temps nous a manqué. Finalement, n'avait-il pas déjà tout dit concernant Marseille, cette ville qu'il avait au cœur au point de la choisir pour y passer l'éternité? Cet épisode qui n'en est pas un sera le sien, à lui, à ce personnage clivant, captivant, à cet homme attachant, au 26 mai 93 pour toujours, au combat exemplaire contre la maladie, à celles et ceux qu'il a tant fait rêver, à nous donc, merci pour tout, à jamais Marseillais. Ce poste, je l'ai écrit le 5 février 2022. J'ignorais à ce moment-là que j'aurais la chance et l'honneur d'enregistrer un épisode de Cité Radieuse avec celle qui le connaissait le mieux, qui le connaissait vraiment. Merci infiniment, Dominique Tapie.
Merci à vous.
C'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à en parler autour de vous et à laisser des étoiles, des avis, des commentaires sur vos applis de podcast préférés. À très vite et d'ici là, portez-vous bien. Thank you.